On va donc reprendre sur la remontée des ateliers avant la dernière table ronde. Alors si Geoffroy Defresne, Faustine Fayette, Christine Mariette et Étienne Jacquemart pouvaient venir pour nous faire le petit compte-rendu. Bien, retour sur le travail en atelier avec les quatre animateurs. Oui, moi je n'ai pas participé aux ateliers. Ateliers qui ont été très suivis. Et je vous remercie de votre assiduité parce que c'est vrai que le programme est, paraît-il, assez chargé. Les propositions ont été retenues par les uns et les autres. Images du terrorisme et des migrants. Faut-il tout montrer ou pas ? Geoffroy Defresne, vous pouvez peut-être nous donner quelques échos de cet atelier. Alors, pendant les interventions, n'hésitez pas à avancer parce qu'il faut véritablement laisser le passage ouvert et ne pas se mettre dans le couloir. Donc n'hésitez pas à traverser la salle s'il le faut pour prendre place.
Alors l'atelier image du terrorisme des migrants, faut-il tout montrer ou pas, a été présenté par Pierre-Angélique Schuller, qui est iconographe maintenant pour Jeune Afrique et qui décrypte chaque mois dans le mensuel Phosphore une photo. Ce qui était intéressant, c'était sur la manière, sur l'approche de son travail d'iconographe d'abord, ou pour Pierre-Angélique. Ce qui est important dans la sélection et le choix des photos, c'est de donner une information supplémentaire et complémentaire, et donner à partir de la photo envie au lecteur de lire l'article des journalistes, avec une certaine manière un devoir, celui qu'une photo doit avant tout raconter une histoire. Voilà, donc elle nous a présenté différentes photos qu'elle nous a décryptées. Le choix soit de montrer des photos choquantes ou justement, ou non d'ailleurs, en disant peut-être qu'une photo symbolique a plus d'impact pour le lecteur qu'une photo, je dirais, de détresse. Ça correspond aussi au fait de préserver aussi la dignité des personnes qui sont représentées. Voilà, le risque, par exemple, d'illustrer un article par une photo choquante, c'est tout simplement le fait que le lecteur tourne la page tout de suite et ne s'y intéresse pas forcément. Donc elle disait, si il doit y avoir une certaine manière un juste équilibre, ou si pour montrer une information on doit passer par une image choquante, peut-être la mettre en perspective ou dans un reportage photo un peu plus long. La question aussi de la prise de distance par rapport à une image où le lecteur est plus choqué par l'expression qu'elle citait, c'est en fait plus c'est loin, moins on met de filtre. C'est-à-dire que si on rapporte un fait, par exemple, une information en France, la perception du lecteur face à l'image sera peut-être plus tendue que si on met une photo qui illustre, par exemple, une guerre, où là, le lecteur va prendre une prise de recul et il sera moins choqué par cela. Aussi préserver, bien sûr, l'anonymat des blessés. Après, la question, faut-il protéger le lecteur en édulcorant une photo, sur la question également de la vérité de l'information qui est transmise. Est-ce que ça vaut la peine de montrer des cadavres? Donc là, la question de préserver aussi la dignité des morts et la place de par rapport à la place de la responsabilité de l'iconographe. Ce qui remontait, c'est que c'était avant tout un travail d'équipe et un choix éditorial qui était fait en équipe. Une photo choquante, elle peut aussi créer une prise de conscience pour le lecteur. Là, l'exemple qui était cité, c'était par rapport au Rwanda, où une image choc a pu déclencher un travail de réflexion concernant la vérité de l'information et la prise de conscience des événements qui se passaient au Rwanda.
Un dernier mot.
Oui, juste savoir que le photographe n'est pas forcément maître de l'utilisation de ces photos. À savoir, là, l'exemple, c'était que, par exemple, l'AFP avait repris une photo des chrétiens coptes qui avaient été assassinés par Daesh, et le diffuseur, c'était le service de communication et de propagande de Daesh. Donc là, savoir d'où vient la photo est petite. Et donc là, pour savoir d'où vient la photo, vous allez sur Google Images, vous mettez la photo et vous avez les références de savoir d'où elle vient et où est-ce qu'elle a été utilisée.
Voilà, et si vous voulez en savoir plus, eh bien, il fallait suivre l'atelier. Partenariat, mécénat, générosité, question éditoriale ou commerciale, enfin surtout, comment ça se monte un partenariat? Un atelier avec Caroline Vivant, qui est des apprentis d'Auteuil, et une animation confiée à Christine Mariette. La Croix.
Alors, pour répondre à la question qui était posée, donc, dans le cadre d'un partenariat, la porte d'entrée est avant tout éditoriale. Un accord de partenariat veut dire accompagnement rédactionnel de La Croix. Et c'est ce qu'a voulu nous montrer Caroline Vivant, responsable des relations médias chez Apprentis d'Auteuil, à travers une opération originale qui a été montée avec La Croix. Dans le cadre du 150e anniversaire des Apprentis d'Auteuil, une grande démarche de concertation a été lancée dans les établissements de la Fondation auprès des jeunes. Pendant un an, la parole des jeunes a été recueillie. Et à partir des constats, Apprentis d'Auteuil a rédigé un livre blanc, « Prendre le parti des jeunes », avec des propositions, avec point de départ, la parole des jeunes qu'on n'entend pas souvent. Dans la continuité de cette démarche est née l'idée de faire venir des jeunes à la rédaction de La Croix pour leur donner la parole. Co-construction du projet qui a abouti à l'opération rédacteur en chef d'un jour. 7 jeunes ont passé la journée à la rédaction, ont assisté à la conférence de rédaction et ont été répartis dans les différents services où chacun a pu rédiger une brève. Dans La Croix du lendemain, publication en exclusivité des propositions du livre blanc, avec interview du directeur des Apprentis d'Auteuil, et en une, la photo des 7 jeunes et leurs commentaires dans les brèves sur l'actu. Donc, un dispositif rédactionnel assez exceptionnel qui a donné une visibilité très forte à Apprentis d'Auteuil et aux propositions du livre blanc. Et parallèlement aux échanges de visibilité, il y a eu un échange de visibilité avec distribution des numéros de La Croix dans le réseau Apprentis d'Auteuil et également en interne avec des offres découvertes du journal. Il y a eu un relais sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram et dans leur newsletter. Et également le logo de La Croix sur le site internet d'Apprentis d'Auteuil qui renvoyait sur le site lacroix.com. Donc en conclusion, c'est une opération gagnante. Pour Apprentis d'Auteuil et pour La Croix, une visibilité externe forte pour Livre Blanc et une visibilité pour La Croix, renforcement des liens avec La Croix qui ouvre également sur des échanges qui permettront à La Croix de rejoindre les publics d'Apprentis d'Auteuil et leurs donateurs.
Merci beaucoup pour ce compte rendu. Piège du jargon, éléments de langage, c'était un atelier qui écoutait Émeric Christensen, La Vie, animation confiée à Faustine Fayette, Bayard Service. Bon, autrement dit, comment tu causes?
Justement, dans cet atelier, on s'est amusé des mots et je pense que ça nous a permis de prendre un peu de distance aussi avec le jargon. Et Émeric a commencé par nous lire un texte truffé de jargon. Et je pense complètement abscon pour quelqu'un qui n'est pas de la maison, et même pour quelqu'un d'averti. C'était un texte qui décrivait les étapes d'un processus de cause de béatification. Voilà, donc avec tous les mots compliqués qu'on peut connaître. Aymeric nous a identifié en fait trois niveaux de jargon. Donc je vais vous donner les trois niveaux. Donc le vocabulaire technique, les faux amis et le jargon autoréférentiel ou dit langage de tribu. Alors pour le vocabulaire technique, on s'est arrêté dessus en se disant que c'était finalement le jargon le plus facile à identifier. Parce que c'est d'abord le jargon technique, c'est un jargon qu'on retrouve dans tous les domaines. Bon, pas dans l'Église, il y a particulièrement des mots jargonnants, mais voilà, on se rend compte que dans le sport, dans tout domaine, il y a du jargon technique. La question qui s'est posée face à ce type de jargon et comment on se positionne éditorialement quand on écrit un article, c'est de se dire, ben voilà, le fait d'utiliser des termes précis. Technique, c'est d'une certaine manière, c'est une garantie de notre crédibilité. On sait de quoi on parle et on est précis. D'un autre côté, si on est trop précis, d'abord, on finit par perdre le lecteur. Et puis, est-ce qu'on finit pas par déléguer justement ce côté pédagogique aux médias généralistes ? Et donc, il y a deux choix possibles que nous a donné Aymeric en exemple. Par exemple, sur un thème instrumentum laboris, donc le document de travail, voilà, des évêques. Ça peut être un mot technique qui peut être conservé, mais expliqué. C'est en tout cas le choix de la vie qui garde cette expression, mais qui l'explique aussi en donnant la traduction. Par exemple, d'autres mots type cohabitation ad experimentum, qui veut tout simplement dire... j'ai oublié le mot. Le concubinage, pardon. Eh bien là, ce jargon n'est pas forcément essentiel. Ça, c'est pour le premier niveau de vocabulaire technique jargon. Deuxième niveau, les faux amis. Les faux amis, là, on est un peu dans une frontière. Ce sont des mots simples, en fait, que tout le monde peut comprendre, mais où on peut mettre des définitions différentes. Et ça peut semer le doute. Alors, des mots type ministère. Bon, bah voilà, ministère... On peut se dire, quelqu'un va penser tout de suite à un ministère politique, plutôt, niveau politique. Mais nous, au ministère sacerdotal, voilà. Il y a des mots comme communion, des mots comme église aussi, voilà, qui peuvent vraiment semer le doute. Troisième niveau, le jargon pur, le langage de tribu. Comme dirait Aymeric, c'est une affectation de la langue au contact d'un groupe trop prolongé.
Est-ce que ça se soigne?
Donc, par exemple, faire paroisse, faire église, un temps de partage, vivre un cœur à cœur, voilà, tous ces mots qui sont simples, mais en fait, qui sont complètement qu'on n'utilise pas en fait en dehors de l'Église. Donc, trois niveaux de jargon, trois risques. Pour le vocabulaire technique, le risque, c'est l'élitisme. Pour le vocabulaire, pour les faux amis, le risque, c'est brouiller le message. Et pour le langage de tribu, le risque, c'est l'exclusion. Finalement, l'autre ne se reconnaît pas du tout dans la manière de parler. Et donc, trois prescriptions. Pour le vocabulaire, ça va être... c'est un vocabulaire qu'on ne peut pas toujours éviter, mais en tout cas, on peut faire le choix de l'expliquer. Pour les faux amis, il faut vraiment prendre le temps et être vigilant pour les identifier. On ne peut pas toujours trop expliquer, parce que sinon, ça alourdit aussi beaucoup les textes. Mais voilà, il faut vraiment savoir les identifier. Et la prescription principale, c'est le premier jargon qui est à bannir prioritairement et qu'il faut traquer, c'est le langage de tribu, parce que c'est celui en fait auquel on s'est tellement habitué qu'on ne reconnaît même plus que c'est du jargon. Voilà, donc un petit truc, relire à haute voix. Et aussi, 100 fois, sur le métier, remettez votre ouvrage. Voilà.
Merci beaucoup, on a tout compris. Dernier atelier, les religions sur grand écran. Magali Vendrette, Signy France, nous a animé cet atelier, a participé à cet atelier, pardon, et l'animation a été confiée à Étienne Jacquemart, CFRT.
Oui, mais on a passé un bon moment. Vous auriez dû venir parce qu'on était une vingtaine et on a rencontré, on a échangé avec des gens passionnés et passionnants sur le cinéma. On a très rapidement évacué la relation entre l'Église et le cinéma, entre la censure et puis l'évangélisation. Pour se poser la question, qu'est-ce que c'est qu'un film spirituel ? Est-ce que c'est un film qui parle de Dieu ? Est-ce que c'est un film qui parle de l'Église ? En fait, on est arrivé à peu près à la conclusion qu'un film spirituel, que tout bon film pouvait être spirituel, sans forcément parler explicitement de Dieu, de l'Église, des grands saints, des grands personnages. Voilà, donc ça, c'était assez intéressant, qu'il y a plein d'auteurs, de réalisateurs qui ont plein de choses à dire à des gens curieux de Dieu, à des gens curieux de sens et de questionnement, et que le cinéma permettait, en fait, par son art, le son, l'image, le cadrage, l'esthétisme, eh bien, que des réalisateurs nous fassent un petit peu toucher du doigt ce que c'était que la spiritualité, la transcendance. Il y en a plein qui arrivent très bien, il y en a plein qui n'y arrivent absolument pas. Et puis, comme on m'a dit d'être très court, je finis par une conclusion que j'ai trouvée absolument éclairante. On peut dire que le cinéma occidental européen est un cinéma de questionnement qui interroge le Nouveau Testament, alors que le cinéma américain est plutôt un cinéma de récit qui puise son questionnement et son récit dans l'Ancien Testament. Voilà, je vous laisse méditer là-dessus. C'était un très bon moment. Merci.
L'Ancien et le Nouveau. Merci beaucoup à tous les quatre. On va passer donc à la table ronde suivante. Simplement, ceux qui hésitent encore doivent entrer et prendre place. N'hésitez pas. Pour éviter de rester dans le passage, j'en profite, on ne l'a pas dit, mais vous le savez, pour la plupart, pour l'avoir repéré, il y a donc dans le salon Aoste une retransmission vidéo, donc il y a plus que les personnes qui sont ici, d'autres personnes qui sont de l'autre côté.